Les agriculteurs dans la rue, mobilisation ce matin à la Saulce avec une opération escargot jusqu'à Gap. Les arboriculteurs veulent faire entendre leurs inquiétudes quant aux zones Natura 2000. Une enquête en cours dans les Hautes-Alpes pour trafic présumé de médicaments, des antidiabétiques fournis suite à de fausses ordonnances. Alors que les fraudes à la sécurité sociale sont en hausse dans le département de 26%, une convention a été signée avec le parquet de Gap pour lutter plus rapidement et plus efficacement. La passe d'armes entre Jean-Michel Arnaud et le ministre délégué chargé de l'industrie. Où sont les aides de l'État après les intempéries qui ont frappé le département? C'est la question qu'a posée le sénateur des Hautes-Alpes hier. Il manque 18 millions d'euros et la réponse du gouvernement ne l'a pas convaincu. L'opposition briançonnaise demande la suspension des projets liés aux Jeux Olympiques d'hiver 2030, en ligne de mire notamment l'aménagement du Fort des Têtes en village olympique, un projet jugé irréaliste et trop lourd pour les impôts des habitants. Les impôts, justement, il en est question avec ce palliatif à la suppression de la taxe d'habitation. On parle d'instaurer une participation citoyenne pour vivre dans une ville ou un village. Daniel Spagnou, le président de l'association des maires dans les Alpes d'Haute-Provence, y est favorable. Les arboriculteurs mobilisés ce matin devant la préfecture des Hautes-Alpes à Gap. À l'appel de la FDSEA et des JA, ils se sont tout d'abord retrouvés à la Saulce pour une opération escargot jusqu'à Gap. Des exploitants qui voulaient faire entendre leurs inquiétudes quant aux zones Natura 2000. Anne-Marie Gouraud est coprésidente de la FDSEA des Hautes-Alpes.
Aujourd'hui, les zones Natura 2000 représentent à peu près 300 hectares entre la vallée de la Durance et le Buëch. C'est des zones qui ont été classées Natura 2000 il y a 25 ans par nos mairies, par nos maires, par nos conseillers municipaux. On leur avait dit à l'époque que rien ne changerait dans leur façon de travailler, qu'ils pourraient continuer de travailler comme ils le faisaient en respectant... Enfin, la plupart, aujourd'hui, la plupart des exploitations arboricoles sont en HVE3. Donc c'est vrai qu'elles travaillent dans le respect de la nature, de l'environnement. Mais aujourd'hui, on voit que la réglementation se resserre. Il ne faut plus qu'ils utilisent de produits phyto. Il ne faudrait plus utiliser de pesticides. C'est juste pas possible. En arboriculture, on sait que ce n'est pas possible. Ils ont déjà diminué par deux en l'espace de 6-7 ans leur fréquence de passage. On est sur de l'agriculture raisonnée, mais on ne peut pas demander à 300 hectares de vergers de passer en agriculture biologique d'un coup, en sachant ce qu'est le marché du bio aujourd'hui.
Autre point de crispation, l'entretien des cours d'eau et des rivières. Les syndicats agricoles dénoncent la complexité des cadres législatifs et réglementaires quant à l'entretien des fossés, des cours d'eau et des canaux. Ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités pour protéger les terres. On ne peut pas laisser des vergers être inondés, des animaux être emportés. On ne peut pas laisser des vergers disparaître, comme les syndicats l'expliquaient au micro alpin. Une réunion devait se tenir en fin de matinée entre ces syndicats et le préfet des Hautes-Alpes, Dominique Dufour. Du côté des Alpes d'Haute-Provence, le rendez-vous est donné demain, 8h30, au rond-point de l'Étoile à Digne-les-Bains, cette fois pour dire non au Mercosur, ce traité de libre-échange que s'apprête à signer l'Europe avec les pays d'Amérique latine. C'est le dossier Alpes 1. Des enquêtes sont en cours dans les Hautes-Alpes pour trafic présumé de médicaments. On parle d'antidiabétiques fournis suite à de fausses ordonnances. La procureure du parquet de Gap, Marion Lozac-Meur, n'hésitait pas à parler ce mercredi de fraude à grande échelle. Elle signait avec la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une convention. Le but est de travailler main dans la main pour lutter contre les fraudes, omission de déclaration, usurpation d'identité bancaire, fraude à l'assurance maladie par des professionnels de santé. Il existe différentes formes de fraude passibles de sanctions administratives, voire même pénal. Mais donc dans ce dossier, on parle de trafic de médicaments. Écoutez la procureure Marion Lozac-Meur.
Dans ce dossier, on a appliqué la convention qu'on a signée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange d'abord par mail ou téléphonique parce que c'était un dossier qui sortait un peu l'ordinaire. Et donc là, c'est prévu que moi, je puisse être alertée spécifiquement et personnellement sur ce type de fraude à grande échelle pour le département. Puis, il y a eu ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire une dénonciation officielle auprès du parquet et une transmission pour enquête aux services concernés avec, là, ça fait partie de mon travail, une réflexion sur quel service saisir en fonction du domicile de la personne, du lieu des fraudes. Là, en l'occurrence, c'est plutôt du coup le domicile de la personne qui a été privilégié, puisque c'est quelqu'un qui est très mobile et qui donc a pu faire des fraudes dans plusieurs départements. C'est actuellement un dossier qui est toujours en cours, mais l'activité frauduleuse s'est arrêtée. Donc on peut peut-être imaginer qu'il a senti le vent du boulet et que de lui-même, il s'est arrêté, mais ce n'est pas pour autant que l'enquête s'arrête.
Depuis le début de l'année, entre 5 et 10 transmissions de dossiers ont été effectuées entre la Caisse de Sécurité Sociale et le parquet. La convention doit permettre d'optimiser les signalements tout en apportant une réponse plus rapide. Rodolphe Damour, le directeur de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
C'est important pour l'efficacité de la lutte contre la fraude en termes de rapidité d'intervention. Quand on présente des fausses ordonnances à des pharmacies pour se faire délivrer des médicaments de façon frauduleuse, on a intérêt à vite tarir le flux, puisque sinon c'est des préjudices qui ne font qu'augmenter. Et puis après, il y a aussi le fait de dire à tous nos concitoyens que le ministère public, les organismes de protection sociale main dans la main pour lutter contre ce qui en fait abîme notre pacte social qui repose sur la solidarité. Chaque fois qu'on fraude, en fait, on vient un peu écorner ce pacte social et donc montrer à tout le monde qu'on s'organise pour être à la hauteur des sanctions et des fraudes qu'on constate.
Près de 880 000 euros de préjudices frauduleux ont été détectés l'an dernier au sein de la sécurité sociale des Hautes-Alpes. C'est une augmentation de 26,5% par rapport à l'année précédente. Dans le reste de l'actualité, une course-poursuite qui se termine sur les bancs du tribunal correctionnel de Gap. Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police en plein centre-ville de Gap. Il a dans un premier temps pris la fuite sur le parking d'un supermarché avant de prendre la direction de Pont-Sarrazin. La Bâtie-Neuve charge à une vitesse folle, 200 km/h sur la Nationale 94, feu éteint, en franchissant les lignes blanches et en obligeant les automobilistes en sens contraire à l'éviter. C'est finalement à Prunière que sa cavale s'est stoppée net après avoir percuté le véhicule de la police et s'être engagé dans un chemin sans issue. Une interpellation qui ne s'est pas déroulée dans le calme puisque l'individu s'est débattu, occasionnant des blessures légères sur 3 fonctionnaires. L'homme, connu des services de police, a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, délit de fuite, dégradation, violence et rébellion. Jugé ce mercredi, il a été condamné à 20 mois de prison dont 8 fermes, l'annulation de son permis de conduire et des dommages et intérêts sur les policiers. Politique, la petite passe d'armes entre Jean-Michel Arnaud et le ministre délégué chargé de l'industrie. Lors des questions au gouvernement ce mercredi, le sénateur des Hautes-Alpes a interpellé Marc Ferracci quant aux intempéries qui ont touché le département et ses aides de l'État qui tardent à venir. Écoutez-le.
Nous avons 56 communes qui ont été classées en catastrophe naturelle, près de 37 millions d'euros de dégâts évalués par les services de l'État en lien avec les collectivités locales. Nous avons aujourd'hui une difficulté majeure, c'est la mobilisation des financements de l'État. 3 millions d'euros simplement en avance ont été promis à M. le préfet et nous attendons donc une quinzaine de millions d'euros pour pouvoir simplement répondre à la question et au diagnostic posé par Mme la ministre Dominique Faure qui était de dire nous aurons la possibilité d'un zéro reste à charge pour les collectivités concernées.
La question de Jean-Michel Arnaud est donc simple, à quand ces aides de l'État auprès des collectivités haut-alpines ? Et la réponse de Marc Ferracci ne l'a visiblement pas convaincu, puisque ce dernier renvoyait la balle aux assureurs et à une politique de prévention.
J'entends évidemment votre préoccupation et je souhaite ici vous assurer de la pleine mobilisation du gouvernement pour que les prises en charge des sinistres par les assureurs, en particulier, interviennent rapidement. Car il est effectivement insupportable que des collectivités, que surtout des citoyens, se trouvent privés de tout et attendent pendant des semaines une indemnisation qui ne vient pas. L'État est par ailleurs, vous le savez, pleinement mobilisé via le fonds Barnier, pour reloger les sinistrés, mais aussi pour réaliser des travaux pour prévenir les risques d'inondation. Et le fonds Barnier, qui est un des piliers de notre politique de prévention, verra dans ce cadre ses moyens augmenter de 225 à 300 millions d'euros à partir de 2025.
Monsieur le ministre, je crois qu'on s'est mal compris. Il manque 18 millions d'euros de financement de l'État conformément aux engagements pris. À ce jour, il est inscrit 48 millions d'euros de crédit de paiement, ce qui n'est évidemment pas à la hauteur des besoins en Ardèche, dans les Hautes-Alpes, dans la Côte d'Or, dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais aussi en Bretagne. Je pense qu'il est absolument nécessaire, et on se retrouvera lors du débat parlementaire, à ce que l'État nous entende en la matière pour faire face aux besoins de nos collectivités locales.
Toujours en politique, l'opposition municipale à Briançon demande la suspension immédiate des projets de la ville liés aux Jeux Olympiques d'hiver 2030. Dans un courrier commun du groupe Briançon Citoyenne et Briançon d'abord, soutenu également par le comité local briançonnais du Nouveau Front Populaire, cette opposition se dit inquiète quant à ce projet qu'elle estime économiquement risqué, écologiquement hasardeux et irréaliste. Un dernier point qui concerne plus directement le Fort des Têtes qui doit accueillir le village olympique. Selon les groupes d'opposition, il serait générateur d'une hausse d'impôts pour les contribuables briançonnais et d'investissements que les capacités financières de la commune ne pourraient supporter. Les groupes demandent donc la suspension de ces projets en attendant les résultats d'une consultation citoyenne. Consultation qui, on le rappelle, n'est pas d'actualité. Des collectivités locales qui s'apprêtent en effet à faire face à moins d'aide. Forcément, avec les demandes d'économie du gouvernement, il va falloir se serrer la ceinture. Si l'idée de réinstaurer la taxe d'habitation est revenue sur la table, elle a été rapidement balayée d'un revers de main par la ministre en charge des collectivités, Catherine Vautrin. Cependant, cette dernière n'est pas contre un autre impôt, une contribution citoyenne au service public, une sorte de participation au fait de vivre dans une ville ou un village. Cette idée a été avancée par l'Association des maires de France. Daniel Spagnou, son président dans les Alpes-d'Haute-Provence, y est favorable.
Mais oui, il y a certains quartiers d'insistants, écoutez, qui ne payent plus rien. Qui ne payent même pas les ordures ménagères, puisque les ordures ménagères sont calculées sur le foncier bâti. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne payent plus rien. Et quand on ne paye plus rien, on ne respecte plus rien. Et on n'apprécie plus rien. Créer une petite contribution, même si elle est toute petite, et je crois que ce serait très juste pour l'ensemble des Français.
C'est une forme de responsabilisation des citoyens?
Oui, tout à fait. On les responsabilise. Tout à fait. Et je ne pense pas que ce soit très impopulaire. Moi, j'en ai parlé ce matin. J'ai bu le café avec des personnes. Il y a des personnes qui étaient là qui me disaient « Mais finalement, c'est normal. »
Daniel Spagnou qui, par contre, est opposé à l'idée d'une taxe locative imposée à tous les locataires, comme l'avance le maire de Manosque, Camille Galtier. Il la qualifie d'injuste.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.